Il existe des gens que lorsque vous les connaissez, vous dites que vous avez de la chance. Et c'est le cas, par exemple, on en a tous autour de soi. Et par exemple, le grand ramassis truc, quand on le connaissait, on disait on a de la chance, je vais parler de Rav Rosenberg ou d'autres. C'était le cas de Gil Taïeb. Et Gil Taïeb nous a quittés il y a un an. Nous sommes en ligne avec Karen Taïeb. Bonsoir Karen.
Bonsoir Bernard.
Karen, vous publiez à l'occasion des un an de la disparition de Gil un livre qui s'appelle Tout est dit et dans lequel en fait vous publiez les prises de parole de Gil tout au cours de sa vie. En fait, c'est quoi? C'est des billets qu'il écrivait, c'est des...
Non, je suis partie de d'abord de son iPhone parce que je Il ne me reste plus que des photos, des vidéos et ses écrits. Et en relisant, en regardant, en revoyant ces pages et ces pages qu'il a écrites tout au long de ses chroniques qu'il faisait régulièrement sur Radio RCJ, mais aussi ses prises de parole, que ce soit sur la place du Trocadéro depuis le 7 octobre ou à Tel Aviv ou ailleurs. Il avait des paroles tellement fortes que je me disais qu'en fait, il était très important de les retranscrire, de garder cette mémoire écrite et cette mémoire de la mémoire de sa voix. Et pour moi, c'était une évidence de publier ces textes qui ont une résonance encore aujourd'hui.
Incroyable.
Et c'est pour ça qu'en écrivant, en lisant, je me disais, mais quel titre je pourrais donner à ce livre? D'abord, pourquoi un livre? Pourquoi en faire un livre? D'abord, je pense que Gilles aurait voulu, même de son vivant, qu'on en fasse un livre, qu'on fasse un livre de tout ce qu'il a écrit. Il aimait écrire, il aimait dire les choses, il aimait les mots, il aimait le sens des mots. Et je pense que pour lui, ça aurait été quelque chose d'important de laisser cette trace écrite de ce qu'il a pensé. Et à chaque fois que je rencontrais des gens, on me disait, mais encore plus aujourd'hui, sa voix manque tellement, elle était tellement forte, tellement puissante, tellement.
Qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce
Tellement
hein?
qu'est-ce qu'il dirait
Hein?
aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'il dirait pour ceci et cela? Et
On a
finalement,
besoin de
en
lui.
relisant ces textes, je me suis dit, mais tout est dit. En fait, il a déjà dit tellement de choses, que ce soit sur l'antisémitisme, l'antisionisme, sur la fraternité, sur l'extrême gauche, l'extrême droite. Enfin, tout ce qui fait qu'aujourd'hui on est au plus mal, et lui il avait une réponse toujours forte, toujours juste en fait,
Je vais vous raconter, il y a un autre homme.
qui reste dans la maison de chacune et chacun.
Pardon de vous interrompre. J'ai cité le grand ramassis de trucs, on pourrait dire aussi Théo Klein, des gens qui ont jalonné notre vie, mais il y avait Serge Benatar, un jour, qui a créé ActuJ. Un jour, Serge, il vient en conférence de rédaction avec un journal, il dit, je vous présente ce journal d'il y a 4 ans. ActuJ. Et voilà les titres. Antisémitisme, vous ne trouvez pas qu'on peut écrire le même journal aujourd'hui? Et...
C'est à la fois
hein?
fort et en même temps inquiétant, parce que ça veut dire qu'il y a tellement de choses qui ne bougent pas, et en même temps la haine du peuple juif, l'antisémitisme est tellement récurrent, tellement ancré finalement dans le monde dans lequel on vit, à siècle après siècle, et c'est ça qui est particulièrement inquiétant. Et il faut des voix fortes comme celle de Gilles qui disait « Je n'ai pas peur, les Juifs n'ont pas peur ». Et ça, c'est un message qu'il faut que les gens entendent. Il ne faut pas se retrancher, ni retirer sa mezouza, ni avoir honte de dire je suis juif. Moi, je suis très admirative de Gal Gadot, qui aux Oscars a dit je suis une femme, une maman, et je suis juive. Comme si c'était quelque chose de tellement incroyable de pouvoir dire je suis juif aujourd'hui, comme si c'était un mot grossier
Alors, il avait encore autre chose, Gilles, excusez-moi de vous interrompre,
dans
une
la bouche.
nouvelle fois. Après, je vous promets, je ne le fais plus. C'est que il était sioniste. Et regardez, par exemple, j'ai sous les yeux l'avant-propos de Manuel Valls pour ce livre. Et il dit, Gilles est d'abord un militant juif, sioniste et républicain. Et tout est dit. Alors, pour le coup, tout est dit.
C'est pour
Militant,
ça que
certain.
j'ai
Juif,
ajouté
certain.
ce
Mais
sous-titre.
sioniste, parce que maintenant, c'est-à-dire... Lui, il est parti après le 7 octobre, mais je ne sais pas s'il imaginait que ça irait aussi loin dans la haine.
Je pense que si, parce que de toute façon, le 7 octobre, ça a été le paroxysme. Ce qu'on peut imaginer, ce pogrom où on est venu tuer des Juifs dans leur quotidien, en Israël, sur leur terre. Je pense qu'on a tous été terrifiés par ce qui est arrivé. Gilles a vécu ce moment, évidemment, comme nous tous. Et ça a été un tremblement de terre pour chacun. Donc, j'ai mis un sous-titre. Après, tout est dit, j'ai mis chronique d'un Français juif et sioniste. Oui, j'ai voulu le marquer parce que, d'abord, c'est comme ça qu'il se définissait. Il était d'abord amoureux d'Israël. Israël coulait dans ses veines, mais il avait aussi cette république au fond de lui. Il défendait toutes les valeurs, qu'elles soient du judaïsme ou les valeurs républicaines. Il était fait de ce bois-là, il le disait à chaque fois. On le retrouve dans ses textes, on le retrouve dans ses paroles. Et elles nous servent aujourd'hui, je pense que, comme je le pense, en fait, ce livre, il est un peu une lanterne quand tout est noir, quand on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dire, comment on doit penser. On peut ouvrir ce livre à n'importe quelle page et on trouvera toujours une réponse sur un tel ou tel sujet.
Il ne m'appelait pas frère, il m'appelait petit frère. Et ça va, petit frère ? Et je vous dis, c'était tellement sincère, Fernand Gilles. Tu sais, quand quelqu'un... Moi, je sais, quand j'ai un quand je me dis « ça va, Harry », c'est à ce moment-là que je commence à me méfier. Je ne me méfiais pas avant, mais à partir du moment où j'entends Harry, pas lui. Lui, il pensait vraiment qu'on était ses frères. Mais c'était dans son sang.
Ouais. Voilà, parce que c'est oui, cette notion de... Quand on est dans le même bateau, quand on pense la même chose, oui, il y a de la fraternité, bien sûr. Et il avait le cœur assez grand pour avoir autant de frères. Voilà. C'est parfois ce mot galvaudé quand on dit mon frère. Oui, c'est vrai que c'est. Mais lui, il y avait de la sincérité. De toute façon, il y avait de la sincérité dans tout ce qu'il disait, dans tout ce qu'il faisait. Il était d'une pureté exemplaire. Donc voilà.
Alors,
J'aime pas trop parler de Gilles au passé, ça vous fait
bizarre.
C'est pour ça que je fais ce livre, parce que je veux qu'il soit vivant, qu'il soit ici, présent, avec nous, et que dans ce livre, il y ait ses réponses à nos questions.
Alors, tous les ans, vous faisiez l'opération Lunette en Israël, et un jour, il y a une Française qui habite là-bas qui me dit... J'ai entendu dire qu'il y a des trucs d'opération lunettes. Je dis oui, c'est Ashdod cette année. Ouais, ben, c'est gratuit. Hein. Donc, si vous voulez, allez-y, c'est pour tout le monde. On ne demande pas d'ailleurs. Je me souviens, Karen, un jour, je vous ai vu, je ne me souviens plus dans quelle ville, je crois que ça devait être Sderot ou bien Tiberiadélite, je crois que c'était Sderot. Et il y a un juif russe, c'était il y a longtemps, il venait d'arriver, il a cassé ses lunettes avant de rentrer dans le. Parce qu'il a réalisé qu'il avait gardé ses lunettes sur son nez. Mais lui, en Russie, il fallait faire comme ça. Il avait le système russe, c'est que si je viens avec des lunettes, j'en aurais pas. Il y aura pas pour moi. Et vous l'avez regardé en disant, mais c'est là ici, si tu veux des lunettes, entre.
J'ai une anecdote sur l'opération lunettes.
À l'appel.
Quand on l'avait fait, on l'a fait chaque année depuis le début des années 90. C'était à Jérusalem, on avait fermé toutes les machines parce qu'on partait chaque année avec tous nos amis, ophtalmos, opticiens, etc. Et on avait nos grosses machines, on avait tout fermé, c'est-à-dire qu'on avait terminé. Il y a un religieux qui est arrivé, il avait des lunettes mais cassées avec des morceaux de scotch, de sparadrap. Et il s'est dit, mais je viens de l'apprendre, je ne savais pas que vous étiez là. Et avec Gilles, on a dit, bon, on va faire ouvrir une boîte avec la machine pour n'en faire qu'une seule, parce qu'on s'est dit peut-être que c'est pour lui qu'on est venu.
Oh là là.
Et ça, pour moi, ça m'a toujours marqué, cette opération lunettes, oui, elle est très forte, elle nous ressemble, elle ressemble à ce qu'on a fait dans notre vie, et elle est qu'on soit au plus... D'abord, de dire que tout est possible dans une vie quand on décide que c'est possible.
Alors, donc, moi, j'ai cette Française qui veut des lunettes, et puis je connais bien une responsable sociale à la mairie de Ashdod. Et je lui dis, il y a une personne, est-ce que tu sais comment elle peut faire ça? Elle me dit, mais tu sais pas ce que c'est l'opération lunettes? Elle me dit, c'est un truc, c'est une machine de guerre. Ils prennent un stade, ils sont organisés depuis un an, toutes les familles reçoivent un mail ou un texto qui leur dit opération lunettes, c'est tout organisé avec les mains. Elle me dit, elle va arriver, oui, elle va être accueillie. Elle me dit, mais me dis pas que ça se bricole pas, hein, c'est un truc énorme. Moi, je sais, d'abord, c'est vrai que ça. On a connu quand vous étiez 15-20 à le faire, et puis après, donc, ça a pris l'ampleur que je suis en train de décrire. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que Gilles et Karen, au milieu de tout ça, après avoir monté tout ça, on peut dire, ben, c'est les responsables, c'est pas eux qui vont faire les lunettes. Non, non, ils sont assis sur une chaise, ils regardent les yeux des gens, hein. Et on mange à la cantine avec tout le monde. Il n'y a pas. Un jour, dans cette opération lunettes, il y a Gilles d'ailleurs qui vient me voir et me fait « Bernard, viens, on va... » Il y a une dame du Kazakhstan, elle devait avoir genre 80 ans, elle me dit « Viens parce qu'on lui va lui donner ses lunettes et ce sera la première fois de sa vie qu'elle voit. » Elle voyait pas jusqu'à présent.
Ouais.
Elle voyait que des formes, elle avait pas, elle voyait pas. Et donc on est tous là-bas, tous très émus. C'est une bande, hein, Gilles Taïeb, c'est une bande. Et bande à laquelle j'appartenais d'ailleurs. Et on lui met les lunettes et tout le monde est autour et elle les regarde avec un regard tellement émerveillé. Et tout le monde se dit, tu vois, voilà, c'est la première fois qu'elle... C'est la première fois qu'elle voit.
On a des histoires comme ça. On en a tellement des histoires comme ça. Mais c'est ce qui permet de remplir une vie aussi. Hein. C'est de donner aux autres. Et ça a été le moteur de Gilles, d'être pour l'autre, aux autres, en permanence.
Karen, est-ce que c'est pas aussi un peu... Alors évidemment, donc, il y a le 7 octobre que Gilles a connu, que Gilles Taïeb a connu. Mais... En lisant tous ces articles, ces lettres, ces billets, je ne sais pas comment on appelle ça, ces chroniques, et les discours aussi, je me demandais si ce n'était pas un peu une période révolue. Parce que Gilles Taïeb, c'est les années, je disais les années Citruc, c'est des années où, malgré tout, d'ailleurs, il n'y avait pas de malgré tout, c'est les années de Ravazimov où on était très heureux en France. Ce qu'on vit là maintenant.
On a connu toutes ces périodes. On a connu ces périodes très heureuses, d'abord les années 80, que la jeunesse d'aujourd'hui nous envie souvent, et puis on a connu les périodes très dures, dès les premiers moments de l'intifada, où être juif en France a commencé à devenir assez compliqué, et puis c'est allé de plus en plus loin, de plus en plus fort, il y a une haine qui s'est développée, et il fallait être présent, et Gilles a été présent à chaque fois, comme une force de la nature qu'il était, et puis comme une parole essentielle. Il n'y a pas de période révolue, en fait. Il a été tout le temps là. Il a été présent tout le temps. Et il est encore, de toute façon.
Il est toujours là, bien sûr. D'ailleurs, j'ai peur d'oublier, alors je vais le dire tout de suite. Vous êtes au CEJ ce soir, avec tous ceux... qui Gilles était très important. Et c'est au CEJ ce soir, on peut y aller là. Si on nous écoute dans la voiture, aller faire un tour, aller dans le 17e, parce qu'évidemment, c'est très important. Et un jour, il y a Olivier Rafovitch qui m'appelle. Il me dit, Bernard, on ne peut pas laisser passer ça. Et il me parle de Ilan Halimi. Et je dis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'est pas de la police. Non, on ne va pas laisser passer, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et Olivier me dit, on va faire une manifestation. Et je lui dis, bon d'accord. Et pour faire une manifestation, la première personne qu'on appelle, c'est Gilles Taïeb. Et donc on était trois au début. Hein. On a fini à 100 000 dans la rue avec le président de la République. On était trois. Et ça m'a fait penser, en me souvenant de ça, en fait, en feuilletant votre livre. Un jour, j'avais dit à Gilles, j'avais dit, Gilles, tu sais que le vrai président du CRIF, c'est toi. Il me dit, non, je ne suis pas président du CRIF, pourquoi tu me dis ça? Je dis, pas parce que c'est toi. Parce que c'est quoi un président du CRIF? Un président du CRIF, c'est si tu veux faire une manif, c'est lui que t'appelles. Un président, je m'excuse pour Jonathan, que j'adore d'ailleurs, parce qu'en plus, lui aussi, c'est un grand militant. Et je lui dis, t'as besoin de...
Très proche de Gilles, d'ailleurs.
Pardon? Très proche de Gilles, absolument. Gilles, en fait, le conseiller même, pour être... Le nouveau, je ne veux pas qu'il prenne ombrage s'il nous entend. Ou si quelqu'un de proche de lui nous entend. Mais c'est vrai qu'ils étaient très proches, tout à fait. Ils étaient militants. Et je lui dis aussi, j'ai besoin de 20 000 euros parce qu'il y a un Israélien qui a le cancer, il a besoin de se faire soigner, c'est toi qui trouveras l'argent, j'ai besoin d'une salle, c'est toi qui me diras à qui il faut la demander. Le président du CRIF, c'est toi. T'as pas besoin de... Vous comprenez ce que je dis?
Il n'avait pas besoin de titre, Gilles, en fait. Il a été président de tout. Et il était surtout un leader de la communauté juive, en fait. Plutôt que d'être président, il avait, comme vous le dites là, il n'avait pas besoin d'avoir de titre pour faire et pour agir. Et c'est vrai que c'est la première personne qu'on appelait pour réussir quelque chose, une manifestation, un événement. Il fallait que Gilles soit présent et quand je vois aussi il y a une jeunesse aujourd'hui. Qui prend la relève depuis le 7 octobre et je crois qu'il faut aussi lui rendre hommage. y a beaucoup de jeunes qui ont décidé de ne pas se laisser faire et je leur ai dit qu'ils ont quelque chose du Gilles Taïeb en eux et ça leur a fait évidemment très plaisir, mais c'est vrai que voilà, il faut se lever et se dire qu'on y va, ne jamais laisser tomber, ne jamais baisser les bras. C'était ça, Gilles, en fait. C'est se dire, on est responsable, alors il faut y aller. On ne laisse pas aux autres. Si on m'a demandé de le faire, c'est que j'ai cette responsabilité, alors je mets tout en œuvre pour réussir. Et pour réussir au maximum, c'est-à-dire faire en sorte que, effectivement, une manifestation soit la plus importante possible.
Pendant la seconde guerre du Liban, on était dans un bus avec des gens qui étaient venus en solidarité. Il vient me voir, il me fait « Bernard, on monte au nord cet après-midi, tu veux venir avec nous ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Bon, ok, alors quand on là-bas à la pause, il y a une voiture qui nous attend et on monte. » Et on est monté au Betrayal, qui est dirigé par la SI, par vous. Et on passe dans les forêts, tout est en feu. Toutes les forêts sont en feu. C'est-à-dire, plus on approche de Karachmana, plus il y a le feu. Et je le vois avec un officier dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, que vous devez vous dire dans votre tête, ah oui, il devait être avec lui, un officier de l'armée. Et ils étaient hyper calmes. Et l'officier, il voit tout en feu. Et il dit, ah, c'est que ça, ben, je me demandais pourquoi il ne paniquait pas à Tel Aviv. Je veux bien que vous soyez optimiste, alors là. Parce que Gilles était optimiste par ailleurs. Ça aussi, ça c'était vraiment dans les moments les plus difficiles, il avait toujours le sourire. Il était optimiste.
Très optimiste, parce qu'il pensait toujours avec un temps d'avance, peut-être à un moment où finalement on gagnerait. La bataille, on finirait par gagner par une paix, par quelque chose d'une vie, d'un retour comme aux années qui étaient beaucoup plus faciles que celles
d'aujourd'hui. Aux années
ouais.
Bonheur. Il était aussi proche de Shaul Mofaz. Shaul Mofaz qui a pris le poste de chef d'état-major de l'armée israélienne au pire moment de la vie d'Israël. C'était un moment où il y avait 8 tentatives de faire exploser des bus par jour.
Il était connu en fait de toutes les grandes personnalités d'Israël. En fait. Ouais. Il était admiré justement pour son courage, son amour d'Israël. Dans ses tripes, quelqu'un qui était un vrai militant, qui n'avait pas oublié d'où il venait et qui était un défenseur de ce peuple, quoi, avec toutes ses valeurs. Quoi, c'était pour lui. Et donc, du coup, dans son langage, dans sa façon d'être, dans ses accolades, dans sa façon d'être vrai, les gens l'admiraient. Quoi. Donc, il a créé du lien avec. Énormément avec la société israélienne, avec les plus grandes personnalités, qu'elles soient ici ou en Israël d'ailleurs, mais parce qu'il y avait cette force et qu'on attend d'un leader.
Ben nous, ici, les salariés de Radio Shalom ont pris la direction de la radio, les journalistes, c'est très rare d'ailleurs quand ça marche. C'était en 2016, on a pris la direction de la radio, nous les journalistes, et la première personne qu'on est venu voir, quand tu es venu avec nous, c'était Gilles. Ouais. C'était naturel. Et d'ailleurs, il est venu. Il a dit, je viens pour vous aider, mais moi, je peux pas, je suis du FSGU, on a une radio, je peux pas. Mais de quoi tu as besoin, Bernard ? Toujours, 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 toujours. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, ma photo de profil sur mon compte X, je suis avec Gilles. c'était quelqu'un de... Je sais pas. Je ne sais pas si j'ai en force de la nature comme ça. Un jour, Matan Vilnaï, qui était chef d'état-major adjoint de Tsahal, me dit « Gilles, c'est un général de l'armée. C'est ce type-là, il a la vision, il a la capacité d'organisation, il sait parler aux hommes, il sait les organiser, il n'a jamais peur, il n'a jamais de doute. Il m'a dit « Matan Vilnaï, lui, tu sais pas qui c'est, Gilles. Si Tsahal fait quelque chose, c'est parce qu'il y a des hommes comme ça. » Ouais. Karen Taïeb, je vous remercie.
Merci beaucoup, Bernard.
Tout d'abord.
Merci.